9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec vous. Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Vos témoignages qu'on attend sur 2 sujets, ils seront essentiels pour nous faire avancer. Et je vous donne d'abord un sondage à la une pour que vous preniez bien considération du sujet. 89% des handicapés ne font pas confiance au gouvernement pour prendre en compte leur situation. 43% d'entre eux considèrent que la situation d'ailleurs ne s'améliore pas depuis quelques années. À partir d'aujourd'hui, l'association APF Handicap sillonne la France pour parler des droits de toutes les personnes à mobilité réduite en particulier, avec les accès impossibles au métro ou à certains trains, une difficulté dans la vie quotidienne pour faire ses courses, pour aller au cinéma, pour circuler comme tout un chacun. Pourquoi ces citoyens se sentent parfois citoyens de seconde zone, si mal considérés, délaissés en dépit des annonces faites tout récemment par le gouvernement? On fait le tour de la question avec vos témoignages pour nous faire avancer. Ben Julie, on vous attend.
On appelle le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, dans cette lignée, finalement, on va vous parler des héros ordinaires, des femmes et des hommes qui ont réussi à transformer une épreuve personnelle en réussite collective. Ils ont dépassé des accidents terribles, grands brûlés, paraplégiques, aveugles après des accidents. Ils ont transformé leur destin, un livre leur rend hommage. Ils ont créé des entreprises, des choses fortes, une résilience et encore une leçon de vie qu'on partage. C'est le sommaire sur Europe 1 jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec plusieurs constats sur le handicap qui nous associent et qui permettent de vous faire réagir aussi très fortement jusqu'à 10h. J'accueille pour en parler Patrice Tripoteau, directeur général adjoint de APF France Handicap. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Avec Frédéric Zetoun également, je suis ravie de vous accueillir Frédéric.
Bonjour.
On se connaît pour vos différents spectacles, vous qui êtes journaliste musical pour Télématin, pour C'est au programme. Vous chantez et on vous entendra tout à l'heure avec Aznavour, avec Doc Gynéco, avec Michel Fugain. Et il se trouve que l'un et l'autre, messieurs, vous êtes sensibilisés au sujet car vous êtes en fauteuil roulant depuis oui. la naissance et que votre vie quotidienne, même si vous y mettez toujours énormément de soleil, Frédéric, et je le sais pour vous connaître un peu, n'est pas si simple que ça.
Non, mais ça, mettre un petit peu de soleil dans sa vie et ne pas faire partager ses ennuis aux autres, ça s'appelle juste de la politesse. Mmh. Pour le reste, c'est vrai qu'on ne peut faire qu'un constat absolument, on peut le dire avec beaucoup d'humour, mais le constat est absolument pathétique. Je veux dire que ça fait quand même des années qu'à chaque campagne présidentielle, on voit des présidents de la République faire des cartes blanches, oui. prendre à bras le corps ce grand chantier. Enfin, moi, j'aimerais juste qu'on en revienne toujours, enfin, moi c'est un petit peu mon discours, on en reparlera, qu'on en revienne au droit. Je veux dire que le droit, il est là, il est bien là, c'est un cordon sanitaire super important. La liberté d'aller et de venir est un droit fondamental qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est inscrit dans la Constitution française. Or, aujourd'hui, un citoyen en situation de handicap, j'aime pas parler de handicapé, mais
d'accord.
en situation oui. de handicap, finalement, a les mêmes devoirs que tout le monde, mais n'a pas les mêmes droits. Et ça, je pense qu'il serait quand même un petit peu temps de le voir, et non pas de le régler sous le problème du cœur et de la valeur humaine, et il faut être valeureux, il faut tendre la main, et ces actions un petit peu gadget, moi, qui finissent quand même par me saouler, parce qu'elles donnent une image totalement bétifiante de la personne à mobilité réduite. Juste dire, on a des droits,
oui.
un établissement destiné à recevoir du public, doit être aux normes. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de délai raisonnable. Je reprends les termes de la loi. On a accordé un délai raisonnable, je vous
laisse. Pour une mise en conformité.
Voilà, de 3 à 9 ans. Délai raisonnable de 3 à 9 ans. En 9 ans, il y a des gens qui ne seront plus là, qui ne pourront pas avoir cette mise en conformité si jamais elle existe. Donc revenons-en au droit. Soyons un petit peu plus anglo-saxons. Mettons la consommation au centre de tout. Un citoyen en situation de handicap doit avoir les mêmes droits, doit pouvoir accéder à tous les biens qu'il contribue à payer de par ses impôts.
Mmh, voilà. Bien sûr. Alors qu'il y a ce constat fait aussi par les personnes en situation de handicap, 89% d'entre elles considèrent que le gouvernement, celui-ci, ne prendra pas davantage en compte leur Mais situation. Non. Ça veut dire que ça traduit quand même une tristesse et une lassitude, Patrice Tripoteau.
Oui, à la fois plutôt une réaction, une expression forte, mais il y a toujours aussi la volonté des personnes en situation de handicap d'aller de l'avant. Donc je me retrouve, on ne se connaît pas, même si j'ai assisté à son spectacle. Vous avez tout dit, Frédéric Zetoun, hein, dans les valeurs fondamentales. Pour nous mettons en action ce qui vient d'être dit, par exemple, en termes de droits fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. C'est pas neutre, hein,
oui.
aussi ce départ de notre
oui.
caravane. C'est ouais. la journée de l'Europe. Oui. Et aujourd'hui, une des caravanes partira de Strasbourg devant le Conseil de l'Europe. et avec plusieurs associations, nous avons attaqué la France par une réclamation collective en direction de la Cour européenne de justice pour dénoncer que la France donc bafouait les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Mmh. Nous aurons la décision de justice en 2020, donc de la part de la Cour européenne de justice, mais déjà la Cour européenne de justice a considéré que notre dossier était recevable. Voilà, et donc sur les sujets d'accessibilité, de ressources, de compensation, donc de toute la vie quotidienne des personnes. Donc voilà, c'est-à-dire au-delà de dénoncer, en tant qu'association, nous agissons pour faire avancer de manière, je dirais, concrète les droits des personnes.
Bien sûr, avec des témoignages évidemment qui seront éclairants et je vous enjoins à nous appeler, chers amis, si vous le souhaitez, au Standard d'Europe 1. Je vais vous lire celui d'Alexandre, il a 23 ans, il a un handicap très très lourd et un fauteuil qui coûte très cher et qui est aussi très très lourd. Et il nous dit, quand il y a une marge de 5 cm devant une pharmacie, on est parfois obligé de nous servir sur le trottoir.
C'est tous les jours ça. Et le nombre de fois où je dois donner ma carte bleue avec le code, oui, à des gens pour qu'ils me tirent de, pour qu'ils puissent
sans
me
pouvoir
faire
entrer
un
dans le magasin.
Sans pouvoir accéder.
C'est ça.
Alors,
ah oui,
c'est vrai qu'à certaines banques, encore une fois, il ne s'agit pas ce matin de ne voir que le verre ou que la bouteille à moitié vide. Voyons là aussi à moitié pleine. Mais à de multiples reprises, vous êtes obligé de donner votre confiance à des gens que vous ne connaissez pas, uniquement pour pouvoir retirer de l'argent pour aller.
Ne comprends pas, c'est qu'on est envahi par les normes et on faisait des émissions sur l'Europe, les normes, très bien, qui nous ont justement fait progresser d'une certaine manière. Dans les établissements publics, notamment les restaurants qui sont rénovés tout juste, on a quand même une obligation.
Oui, on a une obligation et on
de toilettes handicapées, de toilettes accessibles, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas, vous le constatez
oui,
au quotidien.
Ce n'est pas réduire le sujet à une question de normes.
En fait, ça devrait déjà vous permettre
oui,
de progresser.
Oui, non, mais c'est plutôt et c'est comme ça qu'ont avancé les pays anglo-saxons ou nord-américains et de l'Europe, c'est-à-dire c'est sur une approche de non-discrimination liée à l'accessibilité.
Bien sûr.
C'est-à-dire que une marche de 5 cm, eh bien c'est que on empêche une personne de rentrer dans son magasin. Et donc c'est ce qu'on appelle la discrimination indirecte qui doit être reconnue pénalement.
C'est-à-dire qu'il faudrait pénaliser ces commerçants.
Et le défenseur des droits. Dans ce rapport annuel 2018, signale que le handicap est la première cause de discrimination. Et donc c'est sur cette approche-là, que ce soit dans tous les domaines de la vie, eh bien, si on est sur une approche de discrimination, eh bien, peut-être que la personne qui maintient sa marge de 5 cm dit bah, « s'il y a une personne en situation de handicap, je vais l'aider, je vais même... » et aura certainement un cœur énorme pour
bien
nous
sûr.
Aider.
Mais il ne s'agit pas de cœur, encore une fois.
Mais voilà, c'est plutôt une approche de discrimination parce qu'il y a un certain nombre de lieux qu'on ne peut pas aller.
Mais qui pardon, oui, allez-y.
Je vais vous donner un exemple précis. Oui. Il y a 15 jours, je déjeunais dans une brasserie absolument chic et des Champs-Élysées qui venait de faire de grands travaux. Et à un moment, bah, comme toute personne, l'envie d'aller aux toilettes, c'est quand même quelque chose d'assez universel. Au bout d'une heure et demie de repas, je demande à la personne, étant sûr que les travaux avaient été faits, elle me dit, non, on a encore une dérogation. Et puis vous savez, des gens comme vous, on n'en voit pas beaucoup. Et je lui ai juste répondu, déjà j'ai quitté l'établissement dans les plus brefs délais, après bien sûr avoir payé l'addition, et je n'y retournerai pas, mais... Je lui ai juste dit à cette personne que si elle se mettait aux normes, des gens comme moi, comme elle disait avec cette vulgarité qui n'appartenait qu'à elle, ou malheureusement qui est souvent assez répandue, des gens comme moi, elle en verrait plus. Aux États-Unis, un autre exemple, on s'est amusé il y a quelques années, vous le disiez, je suis chroniqueur le matin dans les matinales de France 2, on s'était amusé il y a quelques années à faire une balade en fauteuil roulant à Paris pour le Téléthon, et une balade en fauteuil roulant, on n'avait pas voulu prendre l'exemple américain, mais voilà, au Québec, où on parle français, où c'est proche. Mais au Québec, quand vous posez la question est-ce que vous êtes accessible, mais les mecs vous regardent avec des grands yeux, mais c'est quoi cette question idiote? Si on n'était pas accessible, si vous ne pouviez pas aller aux toilettes, si vous ne pouviez pas rentrer chez nous, d'abord on ne serait pas ouvert. Et en plus, on ne le fait pas parce qu'on est gentil ou parce qu'on est bon. On veut votre argent, on veut vos dollars. Donc si nous, on n'est pas accessible, vous allez aller chez le compétiteur, pour reprendre le terme québécois, et là, vous allez pouvoir donner votre argent. Donc nous, on veut que vous veniez dépenser votre argent chez nous. Vraiment, l'approche est rigoureusement différente. Alors, elle peut choquer, c'est une approche capitaliste.
Vous préférez cette approche mercantile et capitaliste, mais
totalement
fondée quand même sur une non-discrimination.
Sur une non-discrimination qui ne vous met pas dans une position de redevabilité. Mmh. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On est valeureux, on s'est mis aux normes. Mais enfin, zut à la fin.
Quand je dis zut, c'est pour pas dire.
Non, mais vraiment, on a encore une fois les mêmes droits. Mmh. On a complètement, je pense, en France aujourd'hui, et tous les ministres qui se succèdent ne prennent le problème que par ce prisme-là, le prisme de la valeur humaine. On va tendre la main, c'est très bien. Et la solidarité, moi je la veux, mais je la veux pour quelqu'un.
Et heureusement que les associations sont là.
Mais bien évidemment, mais heureusement que la solidarité, elle est là pour des personnes debout, pour des personnes assises. Et la solidarité, c'est une qualité, et tant mieux. Mais c'est pas ça le problème. On n'est pas là en train de demander quelque chose qui émanerait d'une valeur humaine supplémentaire. On demande juste à pouvoir vivre comme les autres. Après, gérer son handicap et gérer sa vie et gérer son rapport à soi-même, qu'on soit debout, couché ou assis, c'est le problème de tout le monde.
Jean-Claude nous écrit, il a 55 ans, handicapé depuis 2006 suite à une agression. Nous sommes, dit-il, des citoyens de seconde zone. Ce qui est grave, c'est que nous avons toujours l'impression d'être coupables. Il faut toujours se débrouiller soi-même et ce marathon et cette difficulté du quotidien qu'il traduit.
Et toujours demandé. Donc, sur une approche de droit. Oui. Pour nous, on n'oppose pas aussi une approche économique, mais en tant que client, en tant qu'acteur de la société civile, avec des initiatives multiples qui permettent de développer aussi des marchés. Donc ça ce sont des facteurs. Aussi, quelque chose d'important que l'on dit, c'est qu'on n'est pas dans une approche catégorielle des personnes handicapées. Nous connaissons aussi la situation d'un certain nombre de nos concitoyens qui peuvent être en difficulté,
etc.
Mais ce que l'on porte, en fait, est un message universel. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est classique, mais sert à tout le monde. On est dans aussi un vieillissement de la population. Vous avez votre mère ou grand-mère qui s'est déplacée en fauteuil roulant, qui ne peut pas faire beaucoup de marche, eh bien, elle ne pourra pas aller dans cette brasserie, dans les Champs-Élysées, alors qu'elle n'est pas une personne. Elle ne se considère pas comme une personne en situation de handicap.
Et évidemment, on parlera au-delà de l'accessibilité, de l'accès à l'emploi, deux fois plus de chômage chez les personnes en situation de handicap, la difficulté aussi d'être inclus à l'école, alors que c'est capital et fondamental, justement, pour que chaque citoyen soit au même rang. Le handicap en question, les malaises du quotidien, les grands oubliés du quinquennat, ces personnes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous le dire. Juste après la pause, Michel veut témoigner et je vous redonne la parole, évidemment, Frédéric Zetoun et Patrice Tripoteau de l'association APF France Handicap. A tout de suite avec vous, Julie.
Le tour de la question sur le handicap et les malaises du quotidien. Wendy Bouchard.
12 millions de Français souffrent d'un handicap. Emmanuel Macron avait promis d'en faire un thème prioritaire de son quinquennat. On se souvient même que dans l'entre-deux-tours, face à Marine Le Pen, pour ses deux dernières minutes d'expression, il avait brandi justement la cause des personnes handicapées en disant qu'il allait faire plus et qu'il prévoyait un grand plan. Et vous vous en souvenez évidemment, Patrice Tripoteau et Frédéric Zetoun. Vous avez peut-être eu pas mal d'espoir à ce moment-là, comme beaucoup, ou vous étiez déjà lassé par ces sempiternels discours politiques,
Frédéric ? Moi, je fais toujours confiance. On est toujours heureux d'entendre quelque chose. Bon, après, c'est les lendemains qui déchantent, mais sur le coup, on était plutôt contents. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Patrice.
Ben, c'est-à-dire, c'était aussi le fruit de tout le train de travail fait en amont pendant la campagne pour qu'on fasse porter le sujet du handicap. Donc,
notamment par votre association.
Par notre association. Et donc, France, ça permettait, de manière objective, de dire, ben voilà, un candidat qui met en carte blanche donc le sujet du handicap.
C'était pas le premier, sujet, hein, quand même.
Voilà, mais il le mettait en avant. Il l'a mis en avant après, en le définissant comme une priorité du quinquennat et en nommant un secrétariat d'État auprès du Premier ministre.
Ce qu'il a fait. Oui.
Donc, les premières semaines étaient positives, mais après, on a vu progressivement que les mesures ne s'accompagnaient pas. Donc de manière concrète. Et puis pire, par exemple, en septembre dernier, quand on a eu sur le logement une régression flagrante qui était de diminuer, de passer de 100% de logements accessibles neufs dans la construction neuve à 20%.
À 20%.
Voilà, pour à la fois des questions économiques, nous disant que le bon sens était plutôt de réserver 20% de logements, ce qui est inacceptable. Une des personnes qui va prendre notre caravane, hein, qui est du Mans, eh bien, explique dans un témoignage que depuis 9 ans, elle est dans un logement inaccessible au Mans, donc elle ne peut pas rentrer dans sa douche, par exemple, mais elle n'arrive pas à trouver un logement accessible dans sa ville.
Oui, bon, vous avez heureusement une revalorisation qui a été annoncée de l'allocation adulte handicapé qui porterait cette allocation à peu près à 900 euros par mois, c'est-à-dire ce qui reste en deçà du seuil de pauvreté. Là aussi, c'était un engagement d'Emmanuel Macron.
Oui, puis,
c'est la politique des petits pas, c'est ça, Frédéric
Zetoun? Non, puis je pense que l'allocation adulte handicapé, parfait.
Pour
mais
ceux
je pense
qui ne peuvent pas avoir un emploi ou un emploi à temps plein.
Je pense que ce que veulent toutes les personnes en situation de handicap, c'est d'avoir du travail, c'est d'être dans la vie, c'est pas d'avoir l'aumône, c'est pas d'avoir une position, c'est pas d'avoir une allocation pour rester chez soi, c'est d'avoir les moyens de de travailler et de s'inscrire dans la vie de la cité. Mais au sens latin du terme.
Et là, il y a une loi, Patrice Tripoteau, qui engage notamment les entreprises à avoir un quota, pardon, c'est terrible, mais parce que là on parle de
6%.
Discrimination, de 6% notamment de personnes en situation de handicap, on n'est pas du tout dans le compte.
Oui, mais pour revenir sur l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, pour décrypter aussi, c'est qu'au même moment où on annonce cette augmentation, on met en place des nouvelles mesures qui font que de 250 000 personnes qui vivent en couple, bénéficiaires de l'AAH, ne pourront pas bénéficier de cette augmentation parce qu'on a modifié des règles en termes de plafond de ressources.
D'accord.
Donc, en fait, il y a, et en même temps, on supprime l'un des combats de la loi de 2005, qui était un des piliers, qui était ce qu'on appelle le complément ressources, qui permettait à des bénéficiaires de l'AAH étant vraiment en très grande difficulté d'accéder à l'emploi. Eh bien, depuis le 1er janvier 2019, les personnes en situation de handicap, les nouveaux bénéficiaires de l'AAH, ne pourront pas avoir ce complément ressources de 179 euros. Donc, elles sont perdantes. Ouais. Par rapport à l'augmentation de l'AAH.
On se demande pourquoi il y a tant de blocages ou tant de choses données d'une main, reprises d'une autre. C'est dur et c'est votre quotidien aussi, Daniel, vous qui nous appelez d'Avignon au 39-21, qui êtes non-voyant depuis 43 ans à cause d'un accident de voiture. Bonjour Daniel.
Bonjour à tous.
Bonjour et merci d'être évidemment sensibilisé à cette question et de faire essayer d'évoluer les consciences aussi sur le sujet. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez, vous, au quotidien, Daniel?
Le truc, c'est que comme on est non-voyant, bon, je n'ai pas de chien, hein, voilà, j'ai une compagne, on rencontre beaucoup de problèmes dans la rue, quand il faut aller quand on est dans un restaurant qu'il faut aller faire pipi, j'ai encore la chance de pouvoir marcher, et il faut monter un étage, la personne qui vient en fauteuil roulant, déjà, il faut qu'elle arrive à rentrer dans le restaurant, et donc l'étage, on peut pas le faire. Quand on pose la question, on nous dit, même si je le fais en bas, ça me coûte 30 000 euros, et ça me bouffe 4 tables. Et on s'en fout que ça bouffe 4 tables.
Voilà, les considérations aussi que vous rencontrez.
Plein d'autres choses, vous étiez en train de parler de l'AAH.
Oui, l'allocation adulte handicapé.
De l'AAH, voilà.
Dont vous bénéficiez jusqu'à présent ?
Non, pas du tout. Moi, non, parce que je touche une tierce personne et ça, on n'en parle jamais. Et pourtant, notre tierce personne, elle sert pratiquement à la même chose que l'AAH, en fin de compte. C'est pour nous aider.
C'est quoi la tierce personne, Patrice Tripoteau, pour nous expliquer?
C'est-à-dire, un financement soit de la sécurité sociale, soit des départements qui financent les aides humaines ou des aides techniques. Et donc, alors pour nous distinguons le sujet des ressources qui permettent de manger, de se loger, de s'habiller, des aides. Des financements d'aide, donc qui sont complémentaires, mais qui permettent de financer une aide humaine, du matériel. Vous avez dit le coût très cher de fauteuils roulants, par exemple, mais aussi pour des personnes non-voyantes, il peut y avoir aussi des besoins très spécifiques qui ont un coût et qui ne doivent pas être pris sur les ressources propres, quelles que soient ces ressources, mais qui doivent être une aide supplémentaire, puisque parfois c'est des montants importants et c'est des montants que l'on dépense tous les jours. Et qu'on peut dépenser toute sa vie.
D'ailleurs, pour les coûts de fauteuil roulant, parlons-en, il y en a qui coûtent jusqu'à 200 000 euros.
Ça peut avoir des coûts très importants.
Et la sécurité sociale rembourse aujourd'hui en grande partie ?
À la fois, c'est la sécurité sociale qui rembourse une partie, un complément par la prestation de compensation qui est apportée à la fois par les départements et puis un financement, national grâce à la suppression du jour férié, qui permet. Et très souvent, il reste un montant important que les personnes, soit auprès de leur mutuelle, soit si elles sont salariées, parfois leur employeur peut apporter par des caisses de solidarité. Mais c'est un parcours du combattant. Mais pire, c'est qu'on voit de plus en plus des personnes qui ne vont pas accéder à ces matériels, vont garder du matériel obsolète, au détriment de leur santé, de leur sécurité quotidienne, parce qu'elles n'ont plus les moyens de renouveler leur matériel, et ça on le voit de plus en plus, et donc ça c'est important parce que c'est aussi en termes de prévention, parce que la santé peut s'aggraver.
Pardon Daniel, je ferme la parenthèse et je vous retrouve, vous qui êtes à Avignon, vous travaillez Daniel ?
Non.
Non ?
Non, je ne travaille pas parce que malheureusement, parce que j'aurais bien voulu travailler, mais à chaque fois que j'ai demandé à une assistante sociale, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qu'on pouvait me proposer pour avoir une activité ou quoi que ce soit. Je vais pas trop balancer, mais je balance pas de nom, mais voilà la réponse qu'on me donnait. On me disait, c'est pas la peine, avec ce que vous touchez, si vous travaillez, vous aurez moins.
titre.
C'était très engageant comme discours.
Alors, maintenant, Wendy, il y a une chose qui, et puis je pense que je ne vais pas être contredit là-dessus. Là, au mois d'août 2020, je suis à la retraite. Parce que c'est la date de mon anniversaire.
Et vous ne travaillez pas, mais vous êtes à la retraite, ça veut dire ?
C'est l'âge de la retraite.
Ah oui, c'est l'âge de la retraite, d'accord. Oui. D'accord.
Voilà. Donc, automatiquement, je vais toucher une misère, parce que je n'ai pas travaillé, en fin de compte, je n'ai pas travaillé. Et le truc, ce qui est dingue, c'est que ma tierce personne va disparaître, mais mon handicap sera toujours là.
Oui.
Voilà.
Ça veut dire que vous avez touché le minimum retraite de combien à peu près ? Vous avez fait vos calculs ?
637 euros.
Au lieu de ?
Ça fait trois fois la somme que je touche.
Trois fois la somme que vous touchez actuellement. Bah voilà. Et on parlait du vieillissement tout à l'heure et de la difficulté d'accompagner. Vous avez votre compagne, heureusement, Daniel. Mais c'est une réalité aussi que vous prenez en compte régulièrement à l'APF, Association pour les handicapés de France.
Oui, parce que monsieur exprime de manière très, très quotidienne les difficultés administratives à laquelle se rencontrent les personnes en situation de handicap. Quand on a 20 ans, on bascule d'un régime administratif à un autre, et puis il y a des droits qu'on perd et à 60 ans ou à l'âge de la retraite, comme le dit monsieur, eh bien, on peut perdre des droits. Donc, on a permis déjà pour des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé de maintenir leur allocation plutôt de passer au basculement de ce qu'on appelle une allocation pour personnes âgées. Donc déjà, ce qui permettait de maintenir leur statut administratif et certains droits qu'elles avaient parce qu'elles basculaient. Mais monsieur doit avoir une pension d'invalidité et donc là, c'est des mécanismes qui font que à la retraite, effectivement, il y a une difficulté. Et donc, c'est en permanence les difficultés administratives que rencontrent les personnes.
Bah, merci, Daniel, d'avoir témoigné aussi de ce quotidien, de ce qui vous attend et qui nous fait prendre en compte beaucoup de choses, faire la lumière sur cette situation. C'est ce que nous faisons jusqu'à 10h ce matin avec Pascal qui nous écrit « Je ne suis pas une personne en situation de handicap, je suis handicapé. Il faut arrêter d'utiliser cette horrible paraphrase. Il faut agir soi-même en bousculant les choses et pas attendre une application de la loi », dit-il, Frédéric Zetoun.
Je parle de personnes en situation de handicap, c'est pas pour faire joli ou pour être politiquement correct. Je pense que dans le mot handicapé, il y a quelque chose de l'empêchement. Or, quand on parle de situation de handicap, c'est que cette situation peut être juste ponctuelle face à un escalier. On est en situation de handicap. Être handicapé, ça veut dire être empêché.
Oui.
Et psychologiquement, psychanalytiquement, tête des gens, ça implique quelque chose qui vous met déjà en pénalité. C'est pour ça que je fais bien le distinguo. Mais c'est pas juste pour être politiquement correct et faire joli.
Vous avez expliqué votre formule à Pascal. À tout de suite sur Europe 1.
Comme on dit l'évidence.
Évidence. Est-ce que j'ai une gueule d'évidence ?
Atmosphère. Doc Gynéco en duo avec notre invité Frédéric Zetoun, extrait de votre album Duo Solitaire. C'est un très bel album qui est paru il y a quelques jours maintenant. On entendra tout à l'heure un duo avec Charles Aznavour. Cette chanson s'appelle Comme tout le monde et on reprend bien l'éloge de la différence que vous y faites. Et avec le jeu de Doc Gynéco, ça passe très très bien.
C'est une très belle chanson. Lorsqu'on cherchait donc à enregistrer toutes ces chansons en duo, toutes ces chansons que j'avais écrites et que je chantais sur scène. Et Doc Gynéco, après l'avoir interviewé, je me suis dit que, comme tout le monde, c'était quelque chose qui devait lui parler. Et puisque, fondamentalement, si cette définition a un sens, alors lui, vraiment, il se posait là. Et donc, je l'ai appelé en lui disant, écoute, voilà, je suis en train de faire un album, écoute la chanson et dis-moi si tu as envie de venir. Et il est venu tout naturellement et avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'humour. On s'est donné la réplique.
Ouais, et puis le caméléon, c'est vraiment vous, parce que vous avez toujours fait ce que vous vouliez. Vous rêviez de faire de la plongée sous-marine. Vous êtes diplômé de plongeur autonome, vous pratiquez même l'équitation.
L'équitation, j'en fais moins.
Mais vous avez fait beaucoup de choses que vous vouliez faire en dépit du fait que vous êtes aujourd'hui en fauteuil roulant.
Mais juste par envie, il n'y avait aucune. Moi, j'ai jamais été dans un truc de défi. Jamais, j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Lorsque
comme
je racontais celle qui est devenue mon épouse, elle faisait de la plongée sous-marine, j'avais envie de plonger avec elle. Donc, on a trouvé un club de plongée où ils étaient suffisamment ouverts pour justement adapter les règles de la plongée sous-marine et voir comment je pouvais le faire. Vous savez, quand on veut quelque chose, on l'adapte.
Oui. Ce qu'il faut juste dépasser, ce sont les obstacles du quotidien, les villes qui ne sont pas taillées forcément justement pour ce type de handicap. On va en parler juste après la pause. Frédéric Zetoun, notre invité, chroniqueur musical pour France 2 Télématin, c'est au programme avec Patrice Tripoteau, directeur général adjoint de APF Handicap France, et les témoignages de Michel qui arrive dans un instant au 39-21.
Vivre en situation de handicap en France, pourquoi est-ce toujours un parcours du combattant? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Oui, selon vous, notre société accompagne-t-elle assez les handicapés? C'est la question qu'on vous a posée sur Facebook. Réponse sans embâche.
Ah oui, non, à 90%. Hein. Avec quelques témoignages. Non, pas du tout. J'ai même l'impression qu'on est en retard par rapport à d'autres pays.
Ah oui.
Nous dit Aïcha, confirmée par Frédéric Zetoun. Même dans des pays moins peuplés et avec même pas la moitié du budget de la France, ils sont mieux accompagnés, nous dit Raphaël. Il n'y a qu'à voir les métros. Vous avez déjà vu des gens en fauteuil roulant? Non, parce que c'est littéralement impossible pour eux. Les escaliers, les escalators sont non conformes, nous dit Adèle. Et puis, il suffit de regarder qui se gare sur les places des handicapés, particulièrement sur les parkings de supermarchés. Voilà, c'est Christophe qui nous donne ce témoignage.
Et pourtant, le slogan « Si tu prends ma place, prends mon handicap » est resté assez fort dans les consciences. Heureusement qu'il y a ce genre de réflexe aujourd'hui que nous avons et qui semble tellement rudimentaire. Michel est avec nous au 3921. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci de venir témoigner, Michel. Vous qui êtes en fauteuil électrique aujourd'hui?
Ah oui, je suis en fauteuil électrique pour dehors et puis mes mécaniques à la maison. Quoi.
D'accord. Et vous vouliez réagir sur cette émission en considérant qu'il y a un manque aussi de propositions et de réactions sur ce sujet-là aujourd'hui de la part des pouvoirs publics?
Ah bah oui. Et aussi des municipalités. Parce que j'habite pas loin d'une municipalité très touristique.
Où ça?
J'habite en Bretagne et la cité, je voudrais... Enfin, c'est Pont-Aven. Hein.
D'accord.
C'est très... Ouais. Oui. Alors, avec une amie, j'ai dit, moi, j'adore Pont-Aven, on va y aller. Parce que j'y allais avant, quand j'étais... Maintenant, avec mon fauteuil électrique, je peux pratiquement pas y aller. Et donc, on prend un trottoir et il y avait, vous savez, la bande blanche qui nous dit à nous, les handicapés, qu'on peut y aller. Sauf qu'à la fin du trottoir, il y avait une marge de 10 cm et sans la bande rouge qui dit « à stop ». Eh bien, je suis tombée avec mon fauteuil électrique.
Oui.
Alors, c'est très, très embêtant parce que, heureusement que je n'étais pas tout seule, que j'avais une amie avec moi qui m'a aidée. Mais mon fauteuil, il m'a... Bon, voilà, il m'a emporté, c'est normal, quoi.
Ouais, et ça, c'est terrible pour vous, considérer qu'il y a dans ces régions touristiques aussi un manque d'aiguillage, un manque d'indication. Les municipalités sont très responsables aussi de ces défauts
pour vous.
Patrice Tripoteau va vous répondre, Michel aussi.
Oui,
votre témoignage.
Tous les acteurs publics sont responsables, que ce soit les municipalités, les départements, les conseils régionaux. Très souvent, ils disent non, le handicap, c'est le département. Non, ils sont aussi concernés. C'est l'accessibilité des transports, la formation, l'accessibilité des lycées. C'est l'État, bien entendu. C'est tout aussi les acteurs de la société civile, hein, puisque récemment, une association, je ne la citerai pas, nous invitait pour venir parler avec eux sur la question du logement, et ils avaient oublié que leur salle n'était pas accessible. Donc voilà, donc c'est vraiment tous les acteurs de prendre en compte l'accessibilité. Mais aussi, pour reprendre l'exemple de madame, elle a dit je prends un début de trottoir, c'est bon, et puis après, il est inaccessible. C'est parce qu'en fait, très souvent, le handicap, on veut le traiter par petits bouts. Donc, on va rendre accessible un bout, mais pas l'autre. Et puis, très souvent aussi, on dit non, mais nous, l'enjeu, c'est l'école, c'est l'emploi. Certes, c'est important, l'école, l'emploi, c'est fondamental. Mais si on oublie la question de l'accessibilité du logement, du transport, comment peut-on aller à l'école si on n'a pas de transport pour y aller? Comment peut-on travailler si éventuellement on est prêt à bouger pour aller à 100 km de chez soi pour aller travailler, mais s'il n'y a pas de logement accessible, etc., on ne pourra pas prendre en compte ce travail. Donc, c'est ça qu'on dénonce, c'est-à-dire que ce n'est jamais pris en compte dans sa globalité et agir tout en même temps.
C'est nécessairement une politique globale, Frédéric Zetoun.
Non, mais je voulais juste essayer de sourire lorsque Patrice parle de choses qui sont faites par petits bouts. Parfois, ça relève vraiment de l'ubuesque, ça relève vraiment du comique. La NPE pour les artistes dans le 11e arrondissement, donc oui. Lorsque vous êtes artiste, quand vous êtes intermittent du spectacle, vous devez de temps en temps aller rendre des comptes là-bas. Les toilettes sont accessibles, mais il n'y a pas d'ascenseur pour accéder au premier étage. C'est-à-dire qu'ils ont fait des toilettes accessibles dans un bureau où on ne peut pas... Non mais vraiment, il y a de quoi rire. Il y a vraiment de quoi rire parfois.
Oui, heureusement que vous prenez ça avec de l'humour. Mais je pense par exemple à tous ceux qui se battent à Toulouse, à la gare de Toulouse, Matabiau. Ça fait 10 ans que 25 associations qui représentent tous les types de handicap tannent la SNCF pour enfin installer Toulouse Gare Matabiau, c'est quand même pas n'importe quelle gare, un ascenseur qui permette une accessibilité minimale handicapée. Et là, la SNCF, cette semaine, leur a garanti l'aménagement des accès aussi à la station de métro, à la station, aux différentes stations de TER. On est en 2019, Patrice Tripoteau, mais comment se fait-il que dans les grandes gares nationales aussi, gare SNCF, je pense à Toulon, à Menton notamment, on n'ait pas d'ascenseur et handicapés, poussettes, enfin pensons aussi aux mamans.
Oui, puis des textes de loi datant de 2015 nous amènent jusqu'à 2024 pour une obligation de mise en accessibilité des gares. Donc, vous voyez que.
2024. En 2024, toutes les gares devraient être équipées.
Voilà, alors.
D'ici là, il y a encore un petit report.
Oui, et puis après, c'est des enjeux budgétaires. Donc, nous sommes à la fois donc très, très, très acteurs auprès de la SNCF pour avancer. Mais il y a aussi c'est des investissements de l'État. Donc, l'État n'apporte pas les investissements et les soutiens nécessaires. Et donc, on traîne, on prend du retard. Donc on suit, donc il y a des programmations de travaux que l'on suit, mais on voit effectivement régulièrement du retard.
Et puis, la pensée à la manne économique qu'ils perdent parce qu'on pense aux personnes âgées ou qui sont en mobilité réduite.
Ce qu'on alerte les pouvoirs publics, Ville de Paris, mais pas que la Ville de Paris, c'est en 2024, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes en situation de handicap qui vont venir aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais pas seulement que pour assister à ces Jeux. Et ça va être des touristes dans la France entière.
Et des consommateurs potentiels.
Et donc là, nous le voyons pour les précédents Jeux, les personnes en situation de handicap vont être sur les réseaux sociaux, mais dans le monde entier, vont donner, des notes à l'accessibilité de la France. Et là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que l'image mondiale de la France en 2024, ça va être horrible parce qu'on va se faire massacrer. Parce que des gens qui, s'ils vont dans une grande ville comme à Toulouse et qu'ils voient qu'il n'y a toujours pas un ascenseur et ou que à La Rochelle, ils soient obligés de faire presque 50 mètres, 100 mètres, en plus s'il pleut, on n'a pas de parapluie. Ouais. Donc voilà, pour pouvoir traverser les voies, je veux dire, c'est catastrophique sur l'image de la France.
Vous connaissez La Rochelle pour aller aux Francofolies, d'ailleurs, cet été, Frédéric Zetoun. Je fais mon mea culpa simplement. À Toulon, il y a un ascenseur, c'était Béziers auquel je pensais.
Et pour le fun, la station Invalide à Paris n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible.
Et voilà, ironie du sort. Mais aucune ligne de métro. Si, la ligne 14.
Il faut habiter, aimer, voyager, dormir, sortir sur la ligne 14. Sinon, on a un petit peu de mal.
C'est bon, vous avez un ascenseur. Merci Michel pour votre appel au 39-21. On poursuit ce tour de la question sur la situation des personnes handicapées. Les grands oubliés du quinquennat, manifestement, pour elles. Dès ce matin, à partir de Rennes, de Strasbourg, de Grenoble, de Montpellier, des caravanes vont rejoindre Paris où aura lieu un grand rassemblement le 14 mai pour sensibiliser à ces questions avec cette association qui est représentée en studio, APF France Handicap. A tout de suite sur Europe.
En France, 12 millions de personnes souffrent d'un handicap. Si Emmanuel Macron avait promis d'en faire un thème prioritaire de son quinquennat, il semble ne pas avoir convaincu, pour l'instant en tout cas, Wendy Bouchard.
En France, tout est un effort. Voilà ce que disent 9 personnes en situation de handicap sur 10, témoignant que la situation pour elles s'est dégradée. Frédéric Zetoun est avec nous, journaliste musical pour Télématin, c'est au programme sur France 2. On écoutera un extrait de votre dernier album tout à l'heure, Duo en solitaire. Vous chantez notamment avec Charles Aznavour, avec Doc Gineco, avec Michel Fugain, avec Yves Duteil. La chanson est magnifique et cette passion pour la musique va rejoindre celle du jeune Marty que nous accueillons dans un instant. Le temps de vous dire que nous sommes également avec Patrice Tripoteau, directeur général adjoint de APF France Handicap. Juste un mot, Patrice Tripoteau, et un mot important, cela dit. Pourquoi sommes-nous si en retard, si nous le sommes en France, sur ce sujet ?
Bien, je dirais pendant trop longtemps, et depuis des décennies, on a pris en compte le handicap que par rapport à une approche sociale, une approche... je dirais, de solidarité familiale, pas de ce que je disais, de lutte contre la discrimination.
L'angle n'est pas le bon.
Et je reprends l'exemple de l'accessibilité. Dans certains pays, ils ont peut-être moins de normes, mais par contre, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas accessible, là, pénalement, et je dis bien pénalement, pas civilement, mais pénalement, eh bien vous êtes attaqué pour discrimination puisque vous ne permettez pas à une personne de rentrer ou vous ne lui permettez pas d'avoir les mêmes biens et services. Et on peut le décliner, cette approche-là, dans tous les domaines, L'école, l'emploi, le transport, le logement, dans toute la vie. Voilà.
C'est pour ça que vous exhortez à une politique globale aujourd'hui. Il y a eu quand même des secrétariats d'État qui étaient en charge de,
oui,
de
mais
cette cause.
Les secrétariats d'État étaient tout en bonne volonté. On est bien entendu très, très, très en lien avec eux, mais ils nous expliquent aussi que seuls, ils ne peuvent pas porter.
Si les moyens ne leur sont pas donnés.
C'est comme Nicolas Hulot quand il dit qu'il ne peut pas seul porter la question de l'environnement. C'est tout un gouvernement qui doit le porter.
Puis au-delà de tout ça, on parle beaucoup d'accessibilité, on pourrait faire un catalogue entier de tout ce qui ne va pas au niveau de l'accessibilité, mais au-delà de tout ça, moi je voudrais dire que quand même, la finalité de tout ça, c'est de banaliser le regard. En fait, pourquoi on n'embauche pas des personnes handicapées? Pourquoi les directeurs d'école ont peur de prendre des enfants en situation de handicap? Parce que c'est la méconnaissance. Si justement...
Mais il y a encore ce problème, cette distorsion du regard sur les personnes handicapées.
Bien évidemment, mais on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne connaissent, ils n'ont jamais été confrontés au problème. Souvent, lorsque quelqu'un est touché familialement par le problème, d'un seul coup, le regard change. En ne donnant pas l'accessibilité, en ne faisant pas que les personnes en situation de handicap et les autres puissent vivre ensemble, on ne favorise pas cette prise en compte de la connaissance, et donc on en reste sur des espèces comme ça, de choses enfouies, de choses non dites. En fait, une personne différente fait peur, quoi. Enfin, c'est la base de tout racisme. Hein. Et à partir de là, en ne banalisant pas le regard, on ne donne pas on ne fait pas que le droit à la différence devienne un jour le droit à l'indifférence.
À l'indifférence. D'où cette chanson Comme tout le monde, qui a beaucoup de sens aussi quand on parle du handicap, qui est sur votre album. Roland nous écrit: les transports en commun à Lyon sont praticables par tous les fauteuils roulants. Il faut le dire aussi quand
tant
il
mieux.
Y a des choses qui vont bien.
Tant
et
mieux.
Voilà pourquoi on relaie votre message, monsieur. Un témoignage maintenant sur Europe 1 qui va vous faire aussi réfléchir et peut-être mûrir sur ce sujet. Écoutez d'abord ceci. Bonjour, bonjour Marty. Bonjour Marty, vous êtes avec nous sur Europe 1.
Bonjour, oui.
C'est vous qui avez mixé ce titre, Belzins Breakdown. Vous êtes DJ. Bah, bravo à vous, déjà, c'est bon de vous entendre sur l'antenne d'Europe 1.
Merci beaucoup.
C'est votre passion que vous avez transformée en métier ces dernières années?
Alors oui, bah, c'est plus qu'une passion. C'est que, en fait, bah, moi j'ai perdu la vue à 15 ans suite à un accident de scooter. Et il a fallu que je trouve un but de me lever le matin, une raison de continuer à vivre. Et donc, du coup, pour moi, ça a été la musique. Et donc, voilà.
Ouais, et quand on va sur votre site, et seulement quand on va sur votre site, autrement, évidemment, on ne le sait pas, on lit Marty Blind DJ, blind aveugle. Voilà, aveugle, c'est simplement ce mot blind qui y fait référence. Autrement, vous portez des lunettes noires et vous êtes dans un joli look depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 29 ans avec cette musique qui vous sert de levier. Vous avez trouvé donc avec ces notes et avec ce rythme la force de vous relever et de sortir de cet enfermement dans lequel vous avez plongé la cécité.
Oui, exactement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il me fallait un but, quelque chose. Au début, je voulais être mécanicien, mais forcément, j'étais tombé à l'eau. Et donc, du coup, je me suis vraiment réfugié dans la musique. Et même aujourd'hui, 14 ans après cet accident, je me lève encore pour la musique et je fais ma journée pour la musique.
Ces 15 dernières années, qu'est-ce que vous avez développé de particulier vis-à-vis de l'extérieur, de votre entourage? Est-ce qu'il y a des qualités chez vous qui ont changé?
Alors, tout a changé, hein. C'est vraiment deux vies différentes, hein. Une vie sans handicap et une vie avec un handicap, c'est vraiment deux vies différentes, que ce soit pour moi, donc l'handicapé lui-même, ou que ce soit pour son entourage, hein, c'est pareil, hein. Ça, tout a vraiment changé, hein. Que ce soit le psychologique ou les façons de faire, c'est tout différent, quoi.
Bien sûr. 15 ans, vous étiez encore au collège, Marty.
Oui, je sortais juste de troisième, oui.
Voilà, donc on a cet accident, vous avez cet accident terrible et vous perdez la vue. Vous vous souvenez de la manière dont vos amis à l'école vous ont accompagné aussi dans cette épreuve, j'imagine?
Je suis pas retourné après dans une école, on va dire, normale, entre
D'accord.
guillemets. Parce que d'abord, je suis resté longtemps au CHU, à l'hôpital, et après dans un centre de rééducation, parce qu'au début, j'étais en fauteuil roulant aussi. Mmh. Et après, je suis allé directement dans un centre pour déficients visuels à Bordeaux, où là, j'ai tout réappris et tout appris, le braille, etc. Et j'ai tout réappris, même le fait de manger sans boire, tout est différent, quoi.
Ouais, quelle force avec cette musique qui vous a sauvé. Vous avez trouvé aussi dans cette passion, Frédéric Zetoun, la même force, justement. vous.
Oui, oui, c'est, la musique, c'est, je ne sais pas si c'était pour trouver une force face à un déficit de mobilité. Moi, la musique a toujours fait partie de ma
cœur.
Vie. Voilà,
ouais.
c'est totalement... Je pense que j'aurais pu être sur mes deux jambes et écrire des chansons
de
aussi.
De toute façon, ouais, parolier et interprète avec les spectacles de Frédéric Zetoun. Je voudrais que vous nous parliez d'un mot de ce qui vous arrive bientôt, Marty, parce que vous êtes à Cognac, mais vous tournez un peu comme DJ à Paris, à Caen et à Bordeaux. Et il y a les Duodets qui s'annoncent le 16 mai. C'est un moment pendant lequel les entreprises permettent, voilà, avec un système de parrainage, vous en parlerez Frédéric Zetoun, d'accompagner une personne en situation de handicap. Et il se trouve que vous allez rencontrer le grand DJ Bob Sinclair.
Exactement, voilà. Donc TPMP m'a offert cette chance et m'a fait cette surprise. Je mixerai avec Sinclair dans pas longtemps,
bon.
En Belgique.
En Belgique, super. La date n'est pas fixée, mais en tout cas, c'est un rêve de gosse. Et on vous remercie beaucoup, Marty, pour ce témoignage qui fait vraiment du bien, voilà, et qui nous engage à vous suivre aussi dans cette force et cette passion musicale. Écoutez encore un petit extrait de ce que vous mixez. La boulette 2K17 de Marty. À tout de suite sur Europe 1 pour parler du handicap.
Nous parlons des personnes en situation de handicap et leurs difficultés de vivre au quotidien. Wendy Bouchard.
Il vous reste 3 ans pour agir, Monsieur le Président. Voilà l'adresse que vous faites à Emmanuel Macron pour l'APF France Handicap, Patrice Tripoteau, qui fait partir aujourd'hui 22 minibus de Rennes, de Strasbourg, de Grenoble, de Montpellier vers Paris. Vous convoyez le 14 mai tous ensemble pour parler allocation, logement, accessibilité, car le compte n'y est pas. Marty nous disait, il est devenu aveugle à l'âge de 15 ans, qu'il avait ensuite quitté le parcours scolaire, qu'il n'était pas allé dans un établissement scolaire normal par le fait de son handicap. Le gouvernement souhaite bousculer les habitudes justement et créer ce qu'il appelle, mais ça c'est des gros mots encore, une école inclusive. En fait, l'école devrait de toute façon être pour chacun. Mais c'est aussi un de vos combats aujourd'hui, permettre à tous ces jeunes enfants reconnus handicapés d'être dans les mêmes écoles que les autres.
Oui, parce qu'une société inclusive, ça démarre aussi par une école inclusive. C'est-à-dire, ce terme d'inclusif, ça veut dire que en fait, les enfants en situation de handicap sont à l'école avec les autres. Et donc, dès le plus jeune âge, on s'habitue d'être avec les autres, qu'on soit en situation de handicap et d'être avec d'autres enfants, ce qui est normal. Et
c'est la base.
Et puis, des enfants, qui ne sont pas en situation de handicap, découvrir d'autres enfants qui sont peut-être différents. Mais pour les accueillir, alors certes, il faut des écoles accessibles, il faut des aides humaines pour accompagner certains élèves qui peuvent avoir des besoins.
Aujourd'hui, dans toutes les écoles municipales, vous avez des escaliers, vous n'avez pas de possibilité.
Mais surtout, il faut aussi former les enseignants, former le personnel qui accompagne ces élèves, adapter les programmes, c'est-à-dire que si on a un enseignement scolaire unique et unifié pour tout le monde, certains élèves sont en difficulté. Et on le voit dans l'exemple dans d'autres pays où on va concevoir des programmes adaptés et personnalisés pour chacun. Ou un autre exemple en Italie, où depuis 30 ans, l'ensemble des élèves sont en situation de handicap, sont dans les écoles. Récemment, nous rencontrions une personne d'une cinquantaine d'années, valide, qui nous disait, mais moi, qui était d'origine italienne, et disant, mais moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été avec des personnes en situation de handicap. Ça ne pose même pas la question.
C'est même plus un sujet. Je veux dire que là, le fait d'en parler, c'est déjà presque honteux, quoi. Je veux dire, il y a plein de pays.
Mais on est d'accord,
C'est la base. Enfin, donner la chance à quelqu'un qui est en situation de handicap d'apprendre et d'avoir un métier comme les autres, c'est le béaba. Et encore une fois, et je rebondis sur ce que disait Patrice.
Mais Frédéric, on faisait une émission sur l'autisme il y a quelques semaines. On sait très bien que la prise en compte et la prise en charge d'enfants autistes dans les écoles est très compliquée. Il y a différentes formes d'autisme aussi. Et là, on parle de différentes formes de handicap. Il faut former ou les enseignants ou avoir aussi des auxiliaires de vie scolaire, les fameux.
Bien sûr, mais vous imaginez le retard dans lequel on se trouve.
Oui,
moi, c'est juste ça qui me fait un tout petit peu hurler. C'est qu'aujourd'hui, on en est encore à se poser ce problème-là. Dans nombre de pays, dans nombre de capitales européennes, dans nombre de pays européens, ce n'est même plus un sujet.
Mais ce n'est pas seulement que des auxiliaires de vie scolaire, et ce n'est pas seulement que la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant, une école qui va accueillir des enfants en situation de handicap, y compris des enfants autistes, et là c'est un combat des parents pour que leurs enfants soient aussi à l'école avec tout le monde, c'est l'ensemble aussi de ressources professionnelles plus spécialisées qui peuvent venir être une ressource par rapport aux enseignants. Et donc c'est comme ça que réussissent dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'un enseignant, une école qui accueille un enfant
avec parfois des situations très complexes, va pouvoir solliciter des ressources complémentaires qui vont venir le soutenir pour pouvoir accueillir cet enfant. Et là, les enseignants ont moins de crainte, puisqu'ils savent qu'ils vont être soutenus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quelquefois, ils se retrouvent seuls avec un enfant qui a parfois des situations complexes dans des classes qui sont parfois avec 30 élèves.
C'est ça, avec un chiffre intéressant et un constat important, c'est que le nombre d'enfants reconnus handicapés augmente fortement. Il y a plus de diagnostics, plus de dépistages et donc plus de besoin aussi d'inclure ces enfants dans toutes les étapes de la vie essentielle.
Oui, puis une fois de plus, notre combat n'est pas que catégoriel, c'est-à-dire que c'est aussi repenser l'école.
Oui, on revient toujours à la même philosophie.
Toujours voilà. Pareil. Ouais. C'est une question de droit. Est-ce que ce monde est fait pour tout le monde ou pas? Est-ce que l'éducation, est-ce que l'école obligatoire, est-ce que ça s'applique à tout le monde ou pas? C'est juste ça. C'est prendre la totalité des concitoyens en charge ou en laisser certains sur le côté.
Voilà. J'aimerais que vous restiez avec nous quelques instants encore, messieurs, parce que j'ai encore quelques petites questions à vous poser avant d'accueillir d'autres héros ordinaires comme vous qui ont transformé une épreuve individuelle en réussite collective. Et ils sont nombreux, Laurent, Sophie, Élodie, à vouloir témoigner aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.